Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez centrale pour beaucoup, la situation des travailleurs étrangers ici au Canada.
Oui, bonjour. C'est vrai que changer d'employeur une fois qu'on est sur place, ça peut être un vrai parcours du combattant parfois.
Exactement, mais justement, il y a du nouveau. Une politique qui pourrait faciliter un peu les choses.
Tout à fait. On s'appuie sur un article d'Africa Press, tout récent, du 10 juin 2025. Il parle de ça. Et ce qui est frappant, c'est que cette annonce de flexibilité, elle arrive en même temps qu'on entend parler d'un resserrement des conditions pour l'immigration permanente.
L'idée aujourd'hui, c'est d'explorer cette nouvelle mesure pour les travailleurs temporaires, comprendre comment ça marche concrètement, et puis voir comment ça s'inscrit dans cette tendance plus large avec la baisse des seuils d'immigration et tout ça.
C'est ça. Alors, la mesure principale, en gros, un travailleur étranger qui a fait une demande pour un nouveau permis de travail, pour un nouvel employeur, eh bien, il peut commencer ce nouvel emploi avant même d'avoir reçu l'approbation officielle.
D'accord, donc plus besoin d'attendre des semaines, voire des mois, sans travailler ou en situation précaire.
C'est l'objectif, oui. Réduire ces périodes de flottement, qui peuvent être difficiles financièrement, ça vise plus de stabilité pour eux.
Ça semble être une bonne nouvelle pour les personnes concernées, quand même.
Absolument. Et il faut rappeler qu'il y a déjà des cas où on peut travailler sans permis spécifique. Je pense aux étudiants internationaux, dans certaines conditions, ou aux représentants étrangers, ce genre de profil.
Et il y a aussi ce qu'on appelle le statut maintenu. C'est important ça.
Oui, très important. Si votre permis expire, mais que vous avez demandé le renouvellement avant la date d'expiration, vous pouvez continuer à travailler légalement, sous les mêmes conditions qu'avant, pendant que votre demande est traitée. Si vous restez au Canada, bien sûr.
D'accord, c'est clair. Mais comme vous le disiez, cette souplesse pour le travail temporaire, elle arrive dans un contexte un peu différent pour le permanent.
Oui, voilà. C'est là que ça devient plus complexe. Ottawa a annoncé en octobre 2024 qu'ils allaient réduire les objectifs d'immigration permanente. On passerait de 395 000 prévus en 2025 à 365 000 en 2027. C'est quand même une baisse notable.
Ce qui veut dire, mécaniquement, plus de concurrence, j'imagine. Surtout via le système Entrée Express.
Exactement. Entrée Express, c'est ce système de points, le fameux SCG, ou CRS en anglais. Votre âge, vos langues, votre diplôme, l'expérience, tout ça donne des points. Et avec des seuils plus hauts ou plus de concurrence, chaque point devient précieux.
Et c'est là qu'intervient une stratégie un peu particulière, mentionnée dans l'article. Celle du conjoint non accompagnant. C'est quoi exactement?
Alors, c'est quand un candidat marié, dans son profil Entrée Express, déclare que son époux ou son épouse ne viendra pas au Canada avec lui, ou elle.
Et ça rapporte des points?
Ça peut rapporter jusqu'à 40 points de plus au SCG, ce qui n'est pas négligeable du tout. L'article précise bien, si le conjoint ne peut vraiment pas venir pour des raisons sérieuses, travail, famille, etc., c'est tout à fait légal, pas de souci.
Mais le problème, c'est si c'est juste pour les points.
Voilà. Si c'est une manœuvre pour gonfler le score, et qu'en réalité le conjoint est déjà là, ou compte bien venir, là ça coince. Immigration Canada, l'IRCC, peut considérer ça comme une fausse déclaration. Et ça, c'est sérieux.
Fausse déclaration? Ça implique quoi, concrètement?
L'article 40 de la loi sur l'immigration est clair. Ça peut aller jusqu'à une interdiction de territoire de 5 ans. 5 ans!
Même si l'erreur n'était pas intentionnelle au départ?
Ah oui, quand même. C'est un risque énorme, oui. D'ailleurs, l'IRCC envoie apparemment des lettres pour demander des clarifications quand il voit des incohérences entre les demandes. Il surveille ça de près.
Donc, on a une situation un peu paradoxale, non?
C'est ça. D'un côté, on facilite la mobilité sur le marché du travail temporaire, peut-être pour répondre vite aux besoins des entreprises, dans certains secteurs. Et de l'autre, l'accès à la résidence permanente, lui, devient plus difficile, plus sélectif, et on contrôle beaucoup plus les informations fournies.
C'est un équilibre très fin. On accueille pour le travail immédiat, mais on est plus prudent pour l'installation à long terme, en quelque sorte.
Exactement. Et pour les candidats, ça met une pression énorme. La transparence dans leur démarche devient absolument cruciale pour pas tout faire capoter.
Donc, si on résume, plus de flexibilité pour changer de job temporaire, mais des objectifs d'immigration permanente revus à la baisse, et une surveillance accrue des stratégies pour obtenir les points.
C'est tout à fait ça. On voit bien la complexité des politiques migratoires aujourd'hui.
Trouver le juste milieu entre les besoins de l'économie, la capacité d'intégration, le contrôle, c'est un défi constant pour les gouvernements.
Et ça a des conséquences très directes, très humaines, sur les projets de vie de milliers de personnes.
Absolument. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour la suite.
Étant donné cette tension entre le besoin de main-d'œuvre étrangère et le resserrement des voies permanentes, quelles autres conséquences imprévues ou quelles stratégies d'adaptation différentes on pourrait voir émerger chez les employeurs ou même chez les candidats au-delà de ce qu'on a évoqué?
C'est une excellente question. Ça ouvre la porte à d'autres réflexions sur l'évolution future de ces dynamiques.